Bonjour à tous, c'est Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier reportage d'une série de 6 reportages sur les scènes croisées, qui est une scène conventionnée d'intérêt national pour la diffusion et création d'œuvres de spectacles vivant sur le département de la Lozère. Son modèle de développement est basé sur l'itinérance et le maillage du territoire dans le cadre de partenariats avec des acteurs locaux. Donc à travers ces reportages, on va découvrir les missions de Seine-Croisée à travers les différents pôles qui la composent, comme la direction, l'administration, la programmation, la relation avec les publics, la communication et la technique. Mais aussi et surtout depuis que Florian Olivérès a pris la direction des Seine-Croisée en 2017. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'interview de Florent Olivérès, le directeur qui va nous expliquer les missions des Seine-Croisée.
Florian Olivérès, directeur des Seine-Croisée. La direction consiste justement à donner le cap au projet et à donner justement la direction. C'est ce que je m'emploie à faire depuis 2017, date où je suis arrivé justement à la direction. Pour ce poste-là, c'est un projet de direction en fait qui est un projet artistique qui est développé au sein de l'association, la gouvernance et on va dire quasiment à deux têtes. Il y a une gouvernance liée à une convention d'objectifs et de moyens, liée à un label qui est un label de scène conventionnée d'intérêt national avec une option art en territoire. Ce label et cette convention sont signés par l'État, le ministère de la Culture et la DRAC ici, donc du coup en région, le conseil régional et le conseil départemental de la Lozère. Donc du coup, ces trois structures là signe une convention d'objectifs et de moyens qui sont directement liés au cahier des charges du label scène conventionnée art en territoire et au projet artistique du directeur. Donc quand je suis arrivé en 2017, lors de ma nomination, il a fallu, comme plusieurs candidats, proposer un projet de direction pour la structure et un projet de direction sur 4 ans, puisque cette convention d'objectifs et de moyens s'étend sur 4 ans. Ensuite, il y a un bilan une fois ces 4 ans terminés, il y a une nouvelle convention qui est renouvelée sur un autre projet de direction. Donc la direction est finalement importante dans ce sens-là, dans le sens d'une convention, dans le sens d'un projet écrit et mené par le directeur. Et il est aussi important par rapport à la signature de la convention et au label, puisque le label est un décret de loi, il y a un cahier des charges à ce label. Et ensuite, l'autre tête de la gouvernance, c'est le conseil d'administration des Seine-Croisée qui est composé à la fois d'un collège d'élus, donc d'élus de la région Occitanie et d'élus du conseil départemental de la Lozère. Il y a aussi un collège de personnes qualifiées, c'est-à-dire des compagnies, des artistes et des partenaires de programmation qui sont basés en Lozère. Et ensuite, il y a un collège de personnes non qualifiées, c'est-à-dire des gens de la société civile qui s'intéressent de près à la question culturelle, mais qui ne font pas partie ni de structures, ni d'associations culturelles, ni de villes, ni sont pas élus. Ils sont juste membres, on va dire, non qualifiés. Et c'est de là qu'est issu le bureau de l'association. Donc, président, trésorier, secrétaire, et issu de ce collège de membres non qualifiés. Donc voilà, c'est un équilibre, on va dire, de personnes, un équilibre de collège. Et dans cette gouvernance-là, donc c'est évidemment à travers le projet du directeur qu'on évalue, qu'on agrémente. Le conseil d'administration peut justement poser toutes les questions, prendre les décisions qui sont liées intimement à l'organisation de la structure, mais aussi au projet artistique et culturel. Donc voilà, il y a vraiment cette on va dire gouvernance à deux têtes où il faut justement travailler un petit peu des deux fronts. dans tous les conseils d'administration, en fait. Il y a des choses classiques de la vie de l'association, de la vie de l'association en termes de ressources humaines, mais aussi, en effet, en termes de validation de budget, en termes de rapport d'activité tous les ans, où on, voilà, c'est les sujets un peu récurrents et classiques, je dirais, de toutes les structures. Donc, bien sûr, on n'y échappe pas. En fait, il y a tous ces sujets-là qui sont en conseil de, travaillés en conseil d'administration. Mais on essaye d'aller plus loin aussi, évidemment, plus particulièrement sur les orientations budgétaires, sur les orientations budgétaires liées au projet artistique, sur le projet artistique. Alors, a priori, normalement, ne devrait pas être discuté, puisqu'il est validé et amené par le directeur, mais en tout cas il est évalué sur la pertinence et artistique et la pertinence surtout de territoire, en fait. Voilà, donc du coup c'est toutes ces questions qui sont abordées de manière on va dire habituelle et logique dans un conseil d'administration. C'est vraiment un travail avec deux collectivités et l'État. Donc, c'est-à-dire, c'est des besoins et des envies que ces deux collectivités et l'État formulent au territoire. Et c'est ça qui est à l'origine, en fait, des scènes croisées. C'est comment développer le spectacle vivant sur ce territoire-là. Je reprends la base, en effet. Le département, on connaît tous les difficultés des services publics, notamment dans un département rural comme celui de la Lozère, avec des budgets départementaux qui sont très limités. Et là, du coup, je rentre pas dans les détails, mais très limités. Le budget de la culture est, on va dire, contraint à une enveloppe, mais en même temps, l'enveloppe n'a jamais baissé depuis quelques années, en fait, hein. Donc du coup elle est vraiment sanctuarisée, et ça c'est une bonne nouvelle pour la culture dans ce département. Mais justement, on parle toujours dans les projets de cofinancement, donc forcément on va voir les autres collectivités, la région et l'État. Et donc il y a 20 ans, il y a eu cette idée-là de dire voilà, on voudrait un label pour que les trois structures, État, région, département, puissent se mettre d'accord sur un programme de politique culturelle sur le département. Est sorti de cette réflexion-là le projet des scènes croisées, qui était un projet pilote pour l'État, puisqu'il n'existait pas à l'époque de scènes conventionnées sans lieu. Et quand on connaît notre territoire, il était, à mon sens, impensable, effectivement encore plus à l'époque, de se dire on va créer une scène sur, par exemple, Mende, si on peut imaginer ça, où les gens viendraient converger. On sait très bien que ça aurait pas marché dans l'efficience même d'un projet artistique sur un territoire. Et déjà, il y a 20 ans, il y avait déjà ces réflexions-là, et ces belles réflexions de se dire, les gens vont pas converger vers un lieu qui parfois est à 2 heures de route, mais plutôt on va imaginer en fait une scène qui se déplace vers les gens. Et ça, c'est une riche idée, une belle idée d'il y a 20 ans. On voit que finalement, aujourd'hui, grâce à ce label scène conventionnée d'intérêt national et grâce à cette option art en territoire, eh bien finalement, ça se développe énormément partout en France, ce qu'on appelle des projets de territoire, et non pas la construction d'une salle avec le public qui viendrait converger. Je dis pas qu'il en faut pas, loin de là. Une salle, c'est aussi très important pour un marqueur, pour les populations, etc. Mais aussi développer des projets itinérants qui vont vraiment à la porte des habitants. Ça paraissait, en tout cas à l'époque et encore aujourd'hui, assez pertinent, on va dire, pour ce territoire-là. Donc je pense, voilà, que effectivement, c'est une réflexion que le département a eu avec la région, avec l'État, pour se dire comment on imaginerait un label ici en Lozère différent de celui qui peut exister partout en France et ailleurs, parce que ça doit répondre à cette question de la ruralité. Il y a d'abord insufflé à l'intérieur de la structure une direction, avec une direction plutôt transversale, où on essaye chacun dans nos postes, comme vous avez peut-être pu le voir à travers toutes ces émissions, on essaye d'insuffler justement une direction plutôt transversale, où on travaille chacun sur nos projets, avec des projets évidemment transversaux que sont la programmation tout public, le jeune public, mais aussi l'administration, les relations publiques qui sont très importantes dans le cadre de tout le projet, mais aussi en mettant la communication vraiment liée au projet. Donc on a d'abord une direction collégiale et transversale en interne. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai amené dans le projet artistique ? C'est le travail, on va dire, de territoire. Parce que justement, le label de scène conventionnée que l'on a obtenu il y a peu de temps, là, est lié à une option qui s'appelle art en territoire. Art en territoire, en gros, c'est trois grands axes. Un axe de diffusion, de spectacle, un axe de création, et puis un axe, ce qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle. Donc ça, c'est, on va dire, les trois piliers du cahier des charges de la scène conventionnée à art en territoire. Avec une spécificité même, la spécificité des scènes croisées en Lozère, une scène n'ayant pas de lieu, mais travaillant en itinérance et en partenariat avec plusieurs structures. Donc il fallait pour moi être à l'écoute justement de ce territoire, à l'écoute de ces structures, à la fois en diffusion, mais aussi à l'écoute des compagnies issues du département, mais aussi issues de la région, des compagnies nationales, puisqu'en fait le rayonnement est d'une scène conventionnée et à l'échelle nationale. Donc il a fallu aussi être à l'écoute des besoins en fait de toutes ces compagnies, et ensuite à l'écoute du territoire sur l'éducation artistique et culturelle. Donc on va dire c'est un grand projet de territoire que j'ai essayé de développer, que j'essaye d'amener, avec un équilibre d'ailleurs sur les esthétiques, en essayant autant faire se peut que de travailler autant sur la musique, que sur la danse, que sur le cirque, que sur le théâtre. Donc ne pas avoir forcément une esthétique forte, mais avoir une pluridisciplinarité sur tout le territoire, et notamment de travailler de plus en plus sur l'ensemble du département, en essayant d'oublier personne, d'oublier aucun partenaire, d'oublier aucun public, d'oublier aucun territoire. Donc essayer d'ouvrir au maximum cette scène croisée, pour le coup, une scène qui doit être traversée par une multitude de partenariats, une multitude d'échanges, et comme je dis souvent, c'est l'occasion de faire ensemble. Donc en termes de diffusion, c'est travailler avec les communautés de communes à cette échelle-là, il y en a 10 en Lozère, donc essayer de travailler en lien avec les élus des communautés de communes, mais aussi avec toutes les structures de diffusion culturelle sur ces territoires-là. Donc on y arrive petit à petit, de manière assez spectaculaire, donc c'est plutôt bien engagé depuis 2 ans, très intéressant, on est passé de 80 représentations à 130 aujourd'hui, donc on voit, et dans tous les territoires, donc on voit qu'il y a une envie, qu'il y a une appétence, qu'il y a un besoin, qu'il y a un désir, qu'il y a le public aussi qui est au rendez-vous. Donc on voit bien que en élargissant et en donnant un petit peu la possibilité à tout le territoire d'organiser des représentations du spectacle vivant, on voit bien qu'il y a le désir en fait est là. Mais aussi, ce que j'ai amené, c'est de faire surtout très attention à la création artistique, notamment dans le cadre de résidences, dans le cadre de projets de résidence de territoire, dans le cadre d'accompagnement des compagnies sur une longue durée. Donc précisément, nous avons depuis 2 ans développé le terme de compagnie complice, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 5 compagnies complices avec lesquelles on travaille sur la durée, donc sur une durée de 3 ans, sur le territoire avec des projets particuliers ou des projets qui ont un fil rouge sur 3 ans. Là-dessus, voilà, on est sur des esthétiques aussi complètement différentes, sur le théâtre, sur la musique et sur la danse. Et ces 5 compagnies travaillent partout en Lozère, à la fois sur des résidences, de la présence artistique, vraiment, au quotidien, en fait, pendant toute l'année. Donc il y a des projets de territoire, comme avec la compagnie Le Cri des Veaux, où on travaille à Marvejols et à Saint-Chély sur un projet très écrit sur 3 ans avec des collectes, de mémoires collectives sur une thématique. Il y a des apéros stylos, il y a des réveillons, ce qu'on appelle des réveillons, c'est des petites soirées chez l'habitant, mais aussi un travail avec des amateurs où les amateurs sont invités à participer à l'écriture d'un spectacle et à jouer le spectacle. Il y aura ensuite de toute cette matière la création d'un spectacle professionnel qui tournera. Il y a aussi des petites formes qui peuvent jouer en appartement, qui peuvent jouer dans des tout petits lieux, dans des tout petits théâtres, avec des toutes petites assos que l'on crée aussi spécifiquement pour le territoire. Mais on travaille aussi avec Yves Fanglin sur l'acte chorégraphique, la danse, notamment on a commencé avec Ballet Brosse, mais aussi sur tout son répertoire. On a fait plein de choses avec elle. On a aussi L'Hiver Nu comme compagnie complice, qui est une compagnie issue du département, qui est installé ici, qui a un lieu de création et de diffusion sur le territoire au Viala, et qu'on soutient sur son activité artistique de compagnie, à la fois sur des résidences, de la coproduction et la mise en réseau, surtout avec des structures extérieures du département, pour que leur œuvre puisse être vue à l'extérieur du département. Voilà, on en a 5, donc il y a Rodine Kaufmann aussi et Annabelle Play, là aussi compagnie du département, Annabelle, qui reçoit avec nous un label du ministère de compositrice associée à une scène pluridisciplinaire. C'est un label du ministère de la Culture et de la SACEM, et pendant 2 ans, du coup, on chemine avec elle sur un parcours de musique contemporaine sur le territoire départemental, ce qui nous permet de travailler avec l'école départementale de musique et ses antennes, avec notamment le lycée de la Canourgue, mais aussi dans des tout petits lieux comme le relais de l'Espinasse, voilà, avec qui on peut proposer, grâce à ce label et grâce à Anna Compagnie, Annabelle Play, des représentations sur ces petits lieux pour une musique qui est peut-être moins facile d'accès que d'autres. Voilà des lieux de résidence, voilà qu'on développe chez nos partenaires, puisqu'on n'a pas non plus de lieux propres de création et de résidence, mais on va dire là aussi une multitude de lieux finalement que l'on aménage en collaboration avec nos partenaires de diffusion. Des moyens en création que l'on a choisi de flécher sur justement la création, et là on est passé effectivement d'un tout petit budget à un budget un petit peu plus important pour développer la création. Donc voilà, après on essaye d'être attentif encore une fois à plusieurs cercles, aux compagnies issues du département, quels sont les leviers, qu'est-ce qu'on leur apporte, aux compagnies de la région. Et aussi cette mission nationale que l'on a sur des compagnies. Et ensuite, le troisième volet du projet, c'est l'action artistique et culturelle, d'abord envers les jeunes, de 0 à 18 ans, sur vraiment la toute petite enfance, en temps scolaire et surtout hors temps scolaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on qui existait déjà, mais que l'on souhaite soutenir, notamment avec des projets comme la Fabrique à chansons, qui est un dispositif national de la SACEM que l'on a récupéré depuis 2 ans sur le territoire, qui nous permet d'accueillir un compositeur. L'année dernière, Wallace, chanteur et compositeur des Hurlements de Léo, qu'on a accueilli dans une classe à Langogne, pour créer une chanson avec une classe, pour ensuite la jouer devant du public. Donc voilà, c'est des dispositifs comme ça nationaux auxquels on participe et qu'on a sur du coup qu'on fait venir sur notre territoire. Et ensuite, l'action artistique et culturelle, elle n'est pas évidemment pas que vers les jeunes, elle est aussi vers le public empêché, où on travaille à la maison d'arrêt à Mende sur des parcours quotidiens. En tout cas, toutes les semaines, il y a des ateliers d'artistes. Donc, ça peut être la musique, ça peut être marionnettes, ça peut être du cirque, ça peut être de l'écriture. Voilà. Donc, on a un atelier, on va dire, permanent à la maison d'arrêt de Mende, avec que des artistes issus du département. Là, pour le coup, nous avons aussi un gros travail avec l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Où il y a généralement toutes les ans au moins une résidence par an qui donne issue à un travail sur dans l'établissement et en fin de résidence on ouvre à l'extérieur, c'est-à-dire que le public peut aussi venir voir dans l'hôpital les sorties de résidence du travail en cours. Voilà, après plein de parcours, hein, une multitude de parcours sur l'adolescence, mais aussi sur le livre et la lecture, en relation et en partenariat avec la médiathèque départementale et le réseau de lecture publique, des bibliothèques, de tout le territoire, parce que bien souvent, les bibliothèques ou en tout cas les points de lecture sont finalement le premier contact avec la culture dans certains endroits et dans certains tout petits villages. Voilà, j'en oublie certainement plein de choses que l'on réalise, mais voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis il y a un troisième axe, un quatrième axe plutôt, qui est développé, qui est plutôt le conseil et l'accompagnement de projets, parce qu'on considère là aussi que nous sommes une scène croisés, donc très attentifs à l'écosystème qui nous entoure, notamment dans le cadre du spectacle vivant. Donc on passe aussi beaucoup de temps à conseiller les structures, à conseiller des compagnies, à les aider à monter des dossiers, à avoir une stratégie avec eux, à la fois sur les collectivités publiques, mais aussi en interne pour eux, pour la construction vraiment de projets sur le territoire. Donc là aussi, on intervient très souvent en aide à une multitude de personnes qui nous le demandent.
Comment elles peuvent vous solliciter alors dans ce cadre-là? Comment elles prennent contact avec vous?
Ah ben, tout simplement en appelant en fait, hein, ou en nous sollicitant de manière très simple. Voilà, justement, on peut effectivement, on peut pas. On a une limite en termes de représentation, on a une limite en termes de projets accueillis, on a plein de limites, mais par contre, on peut aussi donner notre temps et ça, c'est parfois très important. Sur des projets qui sont issus de ce département et qui pourraient ben justement développer leur activité. Donc ça peut être vraiment du conseil juste artistique, des fois ça arrive, en mettant en contact les uns avec les autres, mais aussi des dossiers de subvention, des dossiers d'aide. Il y a aussi une veille que l'on fait sur des appels à projets liés aux collectivités, mais aussi liés à plein d'autres choses, que l'on essaye de mettre en place en fait et de faire suivre justement tous ces dossiers à appel à projet. Donc voilà, tout simplement en ayant un dialogue avec nous en fait. Moi ce que je prône c'est ça, c'est que en effet on a souvent des limites, on peut pas tout faire et tout ce qu'on aurait envie de faire, mais par contre un jour il peut se passer quelque chose s'il y a un dialogue en fait hein, tout le temps, et c'est avec ce dialogue qu'on arrive des fois à débloquer des choses, à créer du désir, parce que encore une fois cette scène croisée elle est liée au désir de faire des choses ensemble. De travailler ensemble, de vivre des choses ensemble, et ça c'est le plus important finalement, de avoir envie tout simplement d'imaginer un rêve pour ce territoire-là qu'est la Lozère, et ensuite on se met autour de la table pour en parler. Des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas, et des fois ça prend plusieurs années avant que ça aboutisse. Que j'ai voulu impulser, c'est évidemment de s'ouvrir en fait, de s'ouvrir au territoire, de s'ouvrir au désir, tout en ayant une exigence artistique. Et là en fait ce mot élitiste, effectivement je l'ai entendu beaucoup quand je suis arrivé, j'entends de moins en moins, ou peut-être on me le cache, mais en tout cas effectivement moi personnellement je l'entends de moins en moins. C'est un mot qui est très complexe dans notre travail de tous les jours en fait, parce que pour nous il veut absolument rien dire. Moi je, il y a juste deux termes qui sont l'essence même de mon quotidien, c'est la culture et le divertissement, donc qui sont pour moi deux choses complètement différentes, et pour autant parfois on les met ensemble. Il est évident que la frontière entre les deux parfois est très très faible ou très très fine, on va dire, entre le divertissement et la culture. Mais pourtant c'est très simple, le divertissement, déjà rien que dans l'étymologie du terme, c'est détourner les regards du public vers autre chose que ce qu'on est en train de vivre dans la société. Il en faut du divertissement. Moi, je suis le premier, parfois, à me dire « Ah, ben j'ai envie d'aller voir tel ou tel spectacle de divertissement parce que ça fait du bien. » Et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est justement, on n'est pas dans le divertissement. On est dans une action culturelle. L'action culturelle, c'est justement prône ces valeurs d'éducation populaire, j'irais même plus loin, ces valeurs-là aussi de développer l'esprit critique, de développer ces valeurs, de parler de la vie en société, de parler de citoyenneté, de qu'est-ce qu'on est dans ce monde-là et dans quel monde on vit, et d'avoir cette réflexion-là. Ça veut avoir une réflexion, ça veut pas dire tout le temps que c'est chiant. Avoir une réflexion, ça nourrit aussi l'humanité, ça nourrit notre homme. Je dis souvent une chose, c'est qu'on, du coup, on pourrait comparer en se disant est-ce que tu as envie aujourd'hui d'une fraise tagada ou d'un plat typique lozérien par exemple. Eh bien effectivement des fois on a bien envie d'un petit bonbon, des fois et tous les jours par contre on a besoin de manger et de se nourrir. Voilà, c'est, mais en même temps on met pas la fraise tagada dans un bon aligo. C'est un petit peu les choses qui est vraiment de mon quotidien là, de me dire voilà qu'est-ce qu'on donne vraiment pour nourrir la population en matière culturelle sur ce territoire-là. Alors après, nourrir, ça ne veut pas dire justement des spectacles complexes et que des spectacles complexes. J'ai souvent aussi, et je dis souvent, on ne commence pas un exercice de maths, par exemple, par la fin. On commence par le début. Donc, et chacun est à son propre début, en fait. Et chacun arrive à sa propre fin. Et il en faut pour tout le monde. Il faut des spectacles dits élitistes pour des gens, en tout cas exigeants, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans ce parcours-là. Il y a des gens où c'est pas leur quotidien, ils sont dans un début d'exercice, on va dire, et il faut aussi des spectacles plus légers, mais tout aussi poétiques, tout aussi questionnant notre vie. Mais c'est une question d'appréhension en fait des spectacles et d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on va venir voir. Donc il n'est pas question d'évaluer en fait la programmation que l'on fait ou justement de la surévaluer en termes d'exigence artistique, tout ça, mais d'être adapté à chaque fois au territoire, au public, aux envies. Parce que ensuite, c'est les artistes hein, qui créent. Nous, on fait juste finalement le pont entre les artistes et un territoire et un public. Donc, les artistes créent et nous, on se met à leur disposition pour présenter et faire la présentation au public. Et les publics, il y a autant de personnes, sont différentes et ont des attentes complètement différentes. Et il faut respecter ça. Voilà. C'est donc du coup, c'est vrai que le mot élitiste est un peu complexe pour nous. Il y a quelqu'un qui a donné à mon arrivée une bonne définition de l'élitisme. C'est quelqu'un qui a les clés et qui les garde pour lui. Et là, pour le coup, nous on s'emploie vraiment tous les jours à donner les clés et à rendre ces clés et à rendre, si en tout cas, à les donner. D'où aussi parfois l'épaisseur de notre programme de saison, qui fait que on a choisi de faire un réel magazine, mais aussi pour expliquer les spectacles, expliquer que ce que les gens viennent voir, c'est pas pour être chiant ou pour être prétentieux, c'est vraiment pour dire au public voilà ce que vous allez venir voir. Et peut-être que avant de venir voir le spectacle, il y a peut-être tel livre ou tel film que vous pouvez voir parce que vous allez comprendre des choses dans le spectacle ou peut-être vous allez passer à côté de choses et c'est dommage parce que il suffirait peut-être de lire ce livre-là ou de voir ce film-là ou de s'interroger sur telle question pour ensuite appréhender encore mieux le spectacle. C'est la question de l'exercice qui commence par un A et qui continue par un point B.
N'ont pas de lieu de diffusion à proprement parler. C'est basé sur l'itinérance. Quelle est la particularité pour un directeur de diriger une structure telle que celle-ci ? J'imagine que comparé aux autres structures qu'on peut connaître, il y a une différence quand même.
Il y a une différence, moi je dirais énorme. Déjà, il faut aimer la route. Ça, c'est une première chose. Il faut vraiment aimer la route parce que une journée comme aujourd'hui, effectivement, c'est incroyable comme je peux être le matin au Blémar, puis entre midi et deux à Mende, puis tout à l'heure à Florac, puis ce soir à Saint-Chély. C'est des choses qui arrivent très régulièrement. Donc il faut en effet épouser ce territoire et finalement aimer la route puisqu'il a que ce moyen-là de transport. Ensuite, il faut effectivement vouloir et avoir envie de travailler ensemble. Et je pense déjà dans un premier temps aimer aussi sa région, son territoire, rêver d'un projet pour lui. Et ça c'est je crois le plus important et ensuite techniquement effectivement après rentre là-dedans les relations avec à la fois le milieu culturel puisqu'en effet comme je parlais d'un écosystème, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un écosystème développé et sain en face de nous, les Cinq Croisés existeraient autrement en tout cas. Donc il faut avoir envie de développer les autres presque plus que soi-même. Donc c'est aussi un don de soi et de sa personne au service des autres structures. Et ça, c'est finalement une des choses quand même très importantes. Il y a aussi, vous savez... quand on est programmateur, il y a beaucoup de subjectivité à voir des spectacles, à les aimer, à pas les aimer, ou en tout cas se sentir touché ou pas touché par certains spectacles. Et il y a aussi, du coup, de ce fait-là, l'acceptation que en face, la personne en face ou la structure programmatrice avec qui on travaille en collaboration puisse être plus touchée ou moins touchée que soit sur un spectacle. Et là, du coup, ils entament des discussions parfois intenses, parfois logiques, où effectivement, ça demande de parler de spectacle d'autant plus, d'aller voir d'autant plus de spectacles. Parce que la réalité des besoins et de la demande et des envies des acteurs culturels sont différents que l'on soit au Mont-Lozère, en Cévennes, en Margeride, sur l'Aubrac ou en Terre d'Apcher. On voit que c'est vraiment des appétences complètement différentes entre les territoires. Donc, faut s'adapter au territoire en termes artistiques et de propositions artistiques. Donc, cela dit, il faut pas avoir beaucoup d'ego finalement. Faut pas avoir beaucoup d'ego dans sa programmation et pouvoir s'adapter justement aux envies de chaque territoire.
Donc on se retrouve dans 15 jours sur le créneau libre pour le second reportage des Cinq Croisés. Celui-ci portera sur la programmation. Donc je vous dis à bientôt.